Bonsoir, l'actualité des Alpes du Sud de ce jeudi 13 juillet, les titres. Les opérations de ratissage terminées au Vernet, toujours aucune trace du petit Émile disparu depuis samedi dernier. Des rafales de plus de 115 km/h, des impacts de foudre mais aussi de la grêle. C'est un orage soudain et très violent qui s'est abattu hier soir sur les Hautes-Alpes. 30 interventions ont été dénombrées à Gap par les pompiers. Des routes ont aussi été coupées à La Grave ou encore au Gioberney. L'enneigement tardif rattrape un hiver sec au glacier blanc. Les équipes du Parc national des Écrins et de l'INRA ont mené deux campagnes de mesures en mai et juin. L'accumulation équivaut à 1,51 m d'eau, soit l'enneigement moyen du glacier blanc ces 20 dernières années. Sensibiliser à l'environnement grâce à la culture, c'est l'objectif du festival Game of Tree aux Ors. Il reprend du service dès le 31 juillet et jusqu'au 4 août avec des artistes comme Suzanne Deluxe ou encore Yannick Noah. Un dernier ratissage a eu lieu au Vernet aujourd'hui après la disparition d'Émile, 2 ans et demi, c'était samedi dernier. C'est donc bien une enquête sur un temps plus long d'analyse et d'examen qui s'ouvre. Une enquête pour exploiter les informations récoltées lors des opérations de ratissage, mais aussi lors des auditions. Une tempête orageuse, soudaine et violente a touché les Hautes-Alpes hier. Des rafales de plus de 115 km/h avec parfois de la grêle ont été enregistrées. On compte sur Gap une trentaine d'interventions, des secours pour des impacts de foudre sur des arbres. Ce sont ainsi 35 pompiers qui ont été mobilisés entre 20h30 et minuit. Une soixantaine de foyers ont été privés d'électricité. Le nord du département a également été fortement touché. Un pan de montagne est tombé dans la Romanche sur la rive gauche. Le lit a été modifié et envoyé sur la départementale 1091 au niveau de la Grave. Une dizaine de véhicules a été piégé sans gravité, expliquent les pompiers. Les automobilistes ont pu être dégagés sans difficulté. Une coulée de boue a aussi coupé l'accès au Gioberney au niveau de la ravine dans le Valgaudemar. La route qui venait d'ouvrir au 1er juillet après l'éboulement survenu en janvier. Les équipes techniques du département se sont là aussi rendues sur place. C'est le dossier de la rédaction. L'hiver trop sec a été rattrapé par un printemps enneigé dans le parc national des Écrins. C'est le constat mené par les agents du parc et l'INRA, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Ils ont mené deux campagnes de mesure de l'enneigement sur le glacier blanc. Cyrielle Cava-Michard.
Les équipes de l'INRAE ont dû procéder en deux fois pour relever l'enneigement du glacier blanc. La première campagne s'est déroulée les 2 et 3 mai derniers. Toutes les balises sur le plateau d'accumulation ont été relevées. Mais l'enneigement tardif a retardé la seconde mesure dans la pente sous la brèche Laurie. La face nord s'étant enneigée très tard, elle était difficile d'accès. Les balises ont été relevées les 6 et 7 juin. Résultat, l'accumulation équivaut à 1,51 m d'eau. C'est l'enneigement moyen du glacier blanc des 20 dernières années. Un phénomène d'enneigement tardif qui n'est pas nouveau, il a déjà eu lieu en 2020 et 2021. Enneigement tardif certes, mais salvateur, constate l'INRAE. Avec toutefois un élément de vigilance, une couche de sable tombée en début d'hiver se trouve dans le manteau neige. Elle devrait emmagasiner plus d'énergie et donc faire fondre la neige plus rapidement.
Merci Cyrielle. Notez qu'une nouvelle visite se tiendra en août prochain. Il s'agira ici de mesurer les premières valeurs de fonte du glacier durant l'été, ainsi que la vitesse de déplacement du glacier sur l'année. La Confédération paysanne des Hautes-Alpes réagit à son tour après l'incendie de la plateforme de Sorbier. Pour rappel, dans la nuit de lundi à mardi, le site privé de traitement de boue appartenant à la société Buech Amendement a fait l'objet d'un incendie. Il a causé la mise à l'arrêt de la plateforme. Ferme opposante à cette exploitation et à sa volonté d'agrandissement, la Confédération Paysanne 05 dénonce le fait qu'aucune mesure administrative ni judiciaire n'ait obligé l'exploitant à fermer le site. Ces dégradations sont jugées anecdotiques pour le syndicat agricole. Il affirme que ces sabotages récents ne font que témoigner de la résistance déterminée des habitants de la vallée de la Blaisance contre l'intoxication de leur territoire. Fin de citation. De son côté, le comité Aigues-Blaisance Nature et Paysages, défavorable également à l'extension de la plateforme, se dit profondément choqué par les récents événements. Il tient à exprimer sa ferme condamnation de tout acte de violence. Même son de cloche de la SAPN FNE05 qui condamne cet acte violent et injustifié, ainsi que particulièrement irresponsable en cette période de sécheresse et en bordure d'un espace forestier. L'association regrette aussi les propos du maire de Sorbier. Il pointait dans ce dossier les opposants à la plateforme. Un point de situation quant à la politique sécuritaire de la ville de Manosque. Le maire Camille Galthié a reçu en début de semaine la sous-préfète de Fort-Calquier, Marie-Paul Desmiguel, alors qu'un contrat de sécurité intégrée a été signé il y a 2 ans. Plus de moyens humains, mais aussi 97 caméras, avec un objectif de 130 d'ici 2026 sur la voie publique. Des voitures, motos et vélos supplémentaires, le compte semble être au rendez-vous pour Camille Galthié. L'édile salue une collaboration en bonne intelligence. Le nouveau centre de supervision urbain, d'un coût global d'un peu plus de 190 000 euros, financé par l'État, la région et la mairie, en est selon lui le parfait exemple. Écoutez Camille Galthié.
Que ce soit l'État ou la municipalité, on a mis les moyens. On était à 21 policiers municipaux en 2020, nous sommes à 28 et bientôt 29 en 23. Il y a eu des recrutements extérieurs à la police nationale, il y a eu des caméras en plus grâce au financement de l'État. Le centre de supervision urbain dépend déjà des autorisations de l'État sur la mise en place et la sécurisation que l'on peut avoir des espaces publics. Et là, ce qui est plutôt pas mal pour nos agents en termes de conditions de travail, c'est qu'on a développé l'outil, la salle est 3 fois plus grande, il y a beaucoup plus d'écrans qu'avant, il y a eu surtout une adaptabilité des logiciels avec de l'intelligence artificielle qui nous permet d'avoir, je crois, un suivi de la gestion de nos espaces publics. Et quand on dit espaces publics, c'est à la fois nos parkings, c'est à la fois notre centre historique et c'est bien évidemment les espaces publics tels que les écoles ou les parcs. Donc oui, c'était une volonté de l'agrandir, de l'améliorer, c'est chose faite. Donc c'est de dire aussi que parfois, collectivité territoriale et État, quand on marche main dans la main, ça marche un peu mieux que si on le faisait seul.
Et notez que cette visite s'est conclue par la signature de la 3e convention de participation citoyenne sur le quartier de l'Eau Vive. En bref, il n'y aura pas de feu d'artifice à Castellane demain soir pour le 14 juillet. Une décision du maire Bernard Liperini en raison des conditions climatiques. Les risques d'incendie étaient trop présents lorsque la décision a été prise. Pour autant, le programme n'en sera pas moins festif avec un concours de boules et le bal traditionnel sur la place Marcel Sauvert, ainsi qu'un spectacle du cirque pyro-mélodique. Culture et environnement peuvent rimer. C'est en tout cas la philosophie du festival Game of Tree aux Ors, une 2e édition du 31 juillet au 4 août, avec cet objectif de parler environnement à travers l'art. Expositions, ateliers, conférences, théâtres ou encore promenades seront proposées. Quant aux concerts, Yannick Noah, Suzanne, Mantissa ou encore Deluxe monteront sur scène. Pour l'organisateur Nicolas Bienvenu, il fallait aussi faire de ce festival un événement éco-responsable. Écoutez-le.
On essaye de pour raconter un peu cette histoire, de d'éco-concevoir notre festival. Donc, c'est que des infrastructures déjà existantes. Après, moi, je travaille beaucoup sur l'accès à la culture et des carnets de programmation. Donc, l'idée, c'est de voir où sont les artistes, de travailler sur leur programmation pour limiter l'impact et puis de voir aussi quels sont leurs engagements. Par exemple, cette année, donc on a Yannick Noah, qui vient en train. Donc ça, je trouve ça génial. Bon, on connaît l'engagement de Yannick Noah. Mais après, voilà, sur la programmation, Suzanne, qui est originaire de la région PACA. Donc ça, c'était intéressant. Deluxe, originaire de la région PACA, très engagé aussi. On a aussi le cabaret de Madoula Niçoise qui est là, pareil, région PACA. C'est des gens qui seront à la fois sur place et à la fois qui sont engagés, avec qui j'ai pu avoir aussi des échanges et voilà, qui portent un peu le festival, parce que ça aurait été dur pour nous à notre échelle d'avoir un Yannick Noah, surtout avec les tarifs en ce moment, pour être tout à fait transparent. Donc là, il y a aussi un engagement. C'est super.
Et le programme complet est à retrouver sur alpe1.com.
Alpe 1 Sport. Alpe 1 Sport.
En hockey sur glace, Oleg Sislanikov dit au revoir à Gap. Arrivé en juillet 2022, le Letton stoppe son aventure au Alpine après une seule saison sous les couleurs des Rapaces de Gap. Une saison satisfaisante pour cet attaquant de 26 ans avec 47 points en 52 rencontres.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com, Facebook et Twitter.